18h30, vous êtes à l'écoute de Radio Brume, une émission Confluence Cinéma en direct. Et on retrouve tout de suite messieurs Hakim et Raphaël. Bonsoir à vous, messieurs.
Bonsoir, Amaury.
Bonsoir, Amaury. Bonsoir, chers auditeurs de Brume.
Alors, au programme aujourd'hui, on va notamment parler dans la deuxième partie du film Her, qui est sorti aujourd'hui.
Aujourd'hui même, le nouveau film de Spike Jonze.
Et que vous êtes allé voir pour nous.
Oscar du meilleur scénario.
Oscar du meilleur scénario. Dans la dernière partie, on reviendra un petit peu sur la carrière, les grands moments de la vie de Joaquin Phoenix, qui est donc l'acteur principal aussi de Her.
Mmh. Oui, un acteur qui commence à avoir une carrière vraiment impressionnante.
Et dans la première partie, alors Raphaël, tu nous chroniqueras rapidement un film et ensuite il y aura une interview, c'est ça Hakim ?
Oui, une interview que j'ai faite avec Lionel Lacour, le délégué général du festival Droit, Justice, Cinéma, dont cette année c'est la 5e édition et ça aura lieu du lundi 24 au jeudi 28.
Alors Raphaël, on t'écoute ?
Alors moi j'aimerais vous chroniquer un film qui est déjà sorti en salle la semaine dernière, il me semble. C'est L'étrange couleur des larmes de ton corps, hein, réalisé par le duo Bruno Forzani et Hélène Cattet. Et qui sont les auteurs déjà d'un film précédent qui était un giallo, hein, qui était Amer.
Donc, grand débat sur Brume il y a déjà plusieurs années, hein, tu n'étais pas encore là.
Et du coup, juste pour nos auditeurs, rappelons ce qu'est un giallo déjà, je pense, à la base. Un giallo, c'est ce genre italien des années 70, popularisé par Dario Argento, mais créé par Mario Bava avec La fille qui en savait trop. Ça a vraiment explosé avec la trilogie animalière de Dario Argento. Et c'est à la base des romans de guerre italiens, un peu des séries noires, on pourrait dire, à l'italienne, hein, pour simplifier un petit peu. Et le genre giallo, c'est un mélange, on pourrait dire, entre le cinéma horrifique, le cinéma policier et le cinéma érotique. Vraiment pour simplifier, pour aller au plus vite. Bref, ils nous reviennent avec un nouveau giallo, L'étrange couleur des larmes de ton corps. Déjà, rien que le titre fournit tout un imaginaire du giallo. Hein. Et le film est un bombardement sensoriel. Donc, si vous avez aimé Amer, passez vraiment à votre chemin. Puisque Amer, à côté, c'était vraiment un film pour les enfants à côté, hein, vraiment. Amer suivait trois histoires de meurtres parallèles, un giallo féministe, qui était assez rare quand même pour les giallos, parce que les femmes sont souvent victimes. Et là, voilà, c'est l'histoire d'un homme qui est en quête de sa femme, enfin une enquête autour de sa femme qui a disparu. Il revient dans une ville du Nord, je crois en Belgique, c'est en Belgique. Et donc, il essaie de la retrouver, et progressivement, il est tombé dans un oniris, dans des rêves, dans des cauchemars. Donc, on pourrait dire, pour simplifier le film, c'est un giallo, mais qui aura réalisé quelque part David Lynch. Un peu comme Barbarian Sound Studio qu'on avait vu ensemble avec Hakim et Gérard May il y a un an. Donc, c'est un film avec tous les codes, donc le poignard, la main gantée, les femmes très sexy, très sensuelles, l'architecture aussi. Et c'est vraiment un cinéma référencé. Donc, moi, je le conseillerais vraiment à tous les amateurs de giallo, à tous les amateurs d'Argento, de Bava, etc., toute cette tendance-là. Mais c'est vraiment un film à part. Hein. Je veux dire, c'est vraiment une expérience à vivre. Soit on adhère, soit on est vraiment...
Si on a détesté Amer, vaut mieux pas y aller.
Moi, je vois exactement ça. Parce que c'est Amer à côté, c'est rien du tout. Hein, ils vont 100 fois plus loin. Il le dit lui-même, c'est un bombardement sensoriel d'images, de sons, de répétitions. C'est extrêmement travaillé. Et puis, ils emmènent le giallo vers un côté autorisant qui est assez bienvenu. Et ils ont un vrai regard. Donc, moi, je vous le conseille si vous aimez vraiment ça. Moi, j'adore ça. Donc, j'ai vraiment un prix pas possible. Et allez-y, parce qu'il reste quelques séances seulement Comédia. C'est pour ça que je voulais vous le chroniquer en 2-3 minutes. Voilà.
Ok, ça marche. Donc, Hakim, on va écouter cette interview.
Réalisée place en Basse-Courtois, en plein air, d'où les bruits de vent.
D'accord, parfait.
C'est le printemps.
Et ensuite, deuxième partie de ce Confluence Cinéma, où on reviendra sur le film Heure.
Je suis avec Lionel Lacour, directeur général du festival Droit, Justice, Cinéma, dont la 5e édition se déroulera la semaine prochaine, du 24 mars au 28 mars. Au Comédia, à l'université Lyon 3 et
à l'hôtel de région.
Alors j'aimerais juste poser une question sur ce festival qu'on n'a jusqu'à présent pas évoqué ni couvert sur Brume. C'est la 5e édition, mais je crois qu'il y a déjà eu une édition à Grenoble il y a quelques années. Est-ce que c'est une continuité ou est-ce que c'est finalement deux festivals à part ?
Alors c'est deux festivals complètement à part. En effet, en 2008, il y avait un festival qui s'appelait Justice à l'écran à Grenoble, qui était un festival à concours puisqu'il y avait une sélection de films inédits, films documentaires, films de fiction, qui n'étaient pas suivis de débat. Là, l'objectif des rencontres Droit, Justice et Cinéma, c'est un objectif différent. C'est un objectif de prendre des films et d'essayer d'en décrypter les questions de droit et de justice.
D'accord, c'est tout. Alors, tu as un peu répondu à la question que je voulais te poser, à savoir quel était le thème, le but de ce festival-là, en sachant que, si je ne me trompe pas, tu vas peut-être me dire si je me trompe, mais c'est l'un des rares festivals à évoquer, à traiter la justice au cinéma en France. C'est finalement pas un thème qui est si récurrent dans les manifestations cinématographiques françaises.
Alors, c'est, y a un autre festival qui a lieu à La Rochelle, généralement fin juin, qui est un festival qui est organisé aussi par des universitaires et qui n'est pas du tout dans la même logique. Eux partent d'un thème, par exemple il y a une année c'était le vote au cinéma, et ils organisent un colloque où des universitaires viennent évoquer toutes les questions du vote au cinéma. Et ensuite il y a une programmation assez exhaustive de films qui évoquent la thématique. Nous on n'est pas du tout dans cette logique-là. Nous on n'a pas de thème sur le festival en tant que tel. Chaque soirée est indépendante l'une de l'autre, justement pour permettre de partir d'un film et d'en faire un décryptage unique par rapport aux films qui suivent.
D'ailleurs, justement, la programmation, comment vous l'élaborez ?
Alors, l'élaboration de la programmation, elle part sur des grandes lignes générales, alors, qui évoluent ensuite, évidemment. L'idée, c'est d'essayer d'avoir au moins un documentaire qui soit suffisamment parlant, suffisamment évocateur, d'avoir un film en avant-première pour permettre justement d'aborder des thématiques généralement qui sont dans l'époque, et puis d'avoir un film du patrimoine, ce qui n'est pas toujours faisable parce qu'il faut que le film du patrimoine s'inscrive aussi dans un débat de justice et de droit de notre époque. Donc, par exemple, cette année, il n'y aura pas de programmation d'un film du patrimoine en soirée.
Donc, il y a deux films qui sont déjà sortis, qui ont rencontré plus ou moins des succès. La Marche, donc un succès médiatique, on va dire, et Neuf Mois Ferme, qui vient décoper de deux Césars, meilleur scénario, meilleure actrice. C'était volontaire ?
Alors, La Marche, c'était, il y avait une logique qui était à la fois liée à l'événement, lié à la période. Le film venait de sortir malgré tout dans l'automne 2013. C'est lié aussi à la géographie, lié au fait que c'est initié dans le Grand Lyon, Vénissieux. Et d'ailleurs, le père Delorme, le père Christian Delorme sera présent lors du débat, un des initiateurs de la marche. Quant au film de Dupontel, c'est une autre logique, puisque lui va recevoir le prix du film de droit et de justice de l'année. Là, c'est une volonté de mettre en avant un film français ou francophone qui a particulièrement mis en avant, en valeur, les questions de droit et de justice. L'an dernier, on était dans un film assez lacrymal, extraordinaire, Omblin, très intimiste. Là, on va être dans un film, au contraire, drôle et qui pose pourtant plein de questions de droit et de justice. Oui. Et c'est ça qui va être très intéressant de décrypter.
Et l'avant-première, c'est le nouveau documentaire de Colin Serrault, Tout est permis.
L'avant-première, c'est un documentaire assez intriguant parce qu'on n'attend pas Colin Serrault sur ce genre de thématique.
Scénariste de Trois Hommes et un Couffin.
Scénariste, réalisatrice aussi de La Crise. Et là, elle aborde un genre qu'on ne connaissait pas forcément, un thème qui ne semblait pas être particulièrement celui qu'elle abordait dans sa filmographie de fiction. Et donc là, il y a un intérêt aussi justement lié à l'actualité juridique et judiciaire, puisque aujourd'hui on se pose des questions sur les retraits des points, sur la légalité même. Certains, vous savez qu'il y a des associations qui se posent la question sur la légalité du permis de conduire à points. Voilà, donc c'était aussi une manière d'aborder une thématique qu'on n'aborde jamais généralement.
Et Colin Serrault sera présent dans sa rencontre.
Colin Serrault sera présente et on est très heureux parce qu'on a aussi Chantal Perrichon qui est une grande militante des droits, j'allais dire, des non-automobilistes, en tout cas de la sécurité routière, et ce qui va permettre d'apporter aussi un autre point de vue que seulement celui de la réalisatrice Colin Serrault. On est très très heureux de l'accueillir.
Et Christophe Carillon sera là le dernier jour pour... Ouais. Pas une masterclass, mais un débat sur le droit au cinéma.
Ouais, alors le film d'ouverture, c'est un film de documentaire d'un Français qui parle beaucoup de droit et qui a un coupable idéal. Et la séance de clôture, c'est un réalisateur qui aime beaucoup le droit. Son livre de chevet, c'est le livre de Montesquieu, L'Esprit des lois. C'est quelqu'un qui, quand on regarde, il a une filmographie qui est assez courte en nombre de films, seulement trois films. Et tous ces films abordent des questions de droit. Même là où on ne l'attend pas, une hirondelle a fait le printemps, aborde des questions de droit. Et donc il va partir en effet de ces trois films et puis aborder des sujets autres et des cinéastes très très variés, de Kitano à John Ford. Voilà, faire un spectre large, et il va nous décrypter un peu comment ces cinéastes, pourquoi les cinéastes abordent ces questions de droit dans leur filmographie. Puis c'est Jean-Jacques Bernard qui l'interrogera, donc ça sera un grand moment aussi.
Ciné plus classique.
Voilà, exactement.
Dernière question, j'ai pu constater sur le site l'événement est organisé avec le Barreau de Lyon et l'Université Lyon 3. Oui. Justement, comment travailler avec le Barreau de Lyon? Comment s'organise cet événement?
Disons qu'il y a un vrai intérêt d'avoir ces deux institutions qui sont les organisatrices du festival. L'intérêt pour le barreau est évident, puisque barreau, avocat, il y avait une sorte d'une légitimité pratiquement évidente à ce qu'ils soient les organisateurs. Et l'université, bah parce que Lyon 3, c'est une des plus grandes facultés de droit de France. Et il y a un institut d'études judiciaires qui forme aux magistrats. Donc travailler avec le barreau, c'est évidemment permettre d'avoir des intervenants de qualité. L'université, c'est avoir des universitaires qui viennent décrypter, qui ne sont pas des praticiens du droit comme les avocats, mais qui vont être plus des théoriciens. Voilà. Et puis ça nous permet surtout de toucher, de sensibiliser des spectateurs qui sont des étudiants. Il y a l'école des avocats Rhône-Alpes qui sont sensibilisés. Ça permet aussi à l'université d'organiser des séances gratuites. On aura un documentaire extraordinaire qui s'appelle « Le sexe de mon identité » sur les transsexuels, qui est organisé à la manufacture des tabacs. Voilà un thème encore qui pose des vraies questions de droit. Ce thème peut être abordé grâce à l'université, parce qu'on va poser des vraies questions qui vont sortir des tabous habituels ou des sortes de tartes à la crème sur la transsexualité. Là, on va voir que ça pose des problèmes d'identité et donc forcément de droit.
Durant cette rencontre, il y aura également une exposition Comédia.
Oui, une exposition qui est organisée par notre partenaire Rhône-Alpes Cinéma, qui va présenter des clichés, des photos de tournage, pas des photogrammes de films, mais des photos de tournage de films qui ont abordé des questions de droit et de justice, qui ont été tournés à Rhône-Alpes, dans la région Rhône-Alpes. Et donc on va avoir à peu près une vingtaine de photographies inédites qui seront proposées aux spectateurs du Comédia. Donc on est très content d'avoir ce partenariat avec Rhône-Alpes Cinéma, qui nous soutient depuis le début. On a d'autres partenaires qu'on est très fiers d'avoir, et notamment la Fondation du Prado qui sera très représentée pendant la soirée de la marche notamment.
And we're from now on it's never gonna be the same. Everywhere, everyone gather around the world and give thanks for all the world. Everywhere, everyone gather around the world.
L'entretien.
Deuxième partie de ce direct Confluence Cinéma, et donc on va parler du film Her, où jouent notamment Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson.
Oui, mais qu'on ne voit pas, on entend sa voix durant tout le film. C'est d'ailleurs un des grandes forces du film, c'est de réussir à nous faire ressentir une émotion pour une voix. Kubrick avait réussi à le faire en 68 avec 2001, et là Spike Jonze réussit en 2014 une nouvelle fois.
Alors, oui, vous pouvez nous faire un petit peu le pitch, justement, de ce film.
Alors, Her se situe dans un Los Angeles futuriste. Le film est dans un futur très proche, on peut imaginer. Donc, un futur assez aseptisé, avec des grands buildings, etc. Où tout le monde, finalement, est assez solitaire et où tout le monde communique à travers Internet, etc., les smartphones et compagnie. Et c'est un monde où l'écriture n'existe plus, ou du moins plus sous la forme actuelle, entre guillemets. Les gens communiquent à travers la voix, beaucoup. Donc, les livres sont écrits à travers la voix, des lettres. Et Joaquin Phoenix est un petit bonhomme qui écrit des lettres pour un site, bellelettres.com. Donc, il écrit... Pour pas mal de gens, des lettres.
Enfin, il dicte. Voilà, c'est un ordinateur, et l'ordinateur, le logiciel écrit au son de sa voix.
En plus, manuscrit, pour le coup, retranscrit de manière manuscrite, ses dires, ses propos. Et donc, il écrit comme ça, et il sort d'une relation amoureuse. Il est en instance de divorce avec sa femme, interprétée par Rooney Mara. Et il achète une nouvelle application d'une voix qui s'adapte en fonction de l'utilisateur, et progressivement il va avoir des sentiments pour cette voix va évoluer, la voix de Scarlett Johansson, ils vont tomber progressivement amoureux et ils vont vivre une vraie histoire d'amour avec tout ce que ça implique, la création, la découverte, le sexe même, puis après les premières disputes, les premiers accrochages, les premières frustrations, et donc on suit toute leur relation comme ça à travers le film. Et c'est un film, moi je trouve que c'est là, pour l'instant, l'un des meilleurs films de ce début d'année, avec le Grand Budapest Hotel de Wes Anderson, qui sont des films très bons comme ça on pourrait dire, et du moins sur le papier, et c'est un film très intéressant qui raconte beaucoup de choses. Donc ça brasse un peu la solitude moderne aujourd'hui dans les grandes mégalopoles. Ça parle aussi de notre rapport à la technologie, ça parle du deuil aussi en amour, de comment avancer par rapport à une histoire qui est finie,
et de l'incapacité d'aimer une personne, de mener une vie de couple sur du long terme, etc.
aujourd'hui au 21e siècle. Et ce qui est très bien, c'est évidemment porté par Joaquin Phoenix, parce qu'il est quand même 80% du temps dans le film seul à l'écran.
Il est filmé en gros plan.
Voilà. Et là, Joaquin Phoenix, je crois qu'il n'a plus grand-chose à prouver au niveau actoral. Mais là, ce qui est très bien, c'est qu'il emmène une légèreté par rapport au reste de sa filmographie. Souvent des rôles très torturés, très sombres. Et là, il emmène une certaine légèreté, du moins en apparence. C'est un film très complexe, qui est faussement simple. C'est un thème que j'aime bien, simple. Ce n'est pas une critique du tout. Et le film est extrêmement travaillé et on y croit vraiment. Sur le papier, on pourrait se dire que ça pourrait donner un nanar, un homme qui parle à une voix pendant 2h05. Et pourtant, non, on y croit et on voit vraiment les relations amoureuses, même la sensualité, bizarrement, dégagée par la voix de Scarlett Johansson, qui est d'ailleurs un très bon choix, et c'est très malin de mettre Scarlett Johansson, puisque c'est l'un des fantasmes ultimes sur cette planète à l'heure actuelle, quoi, en termes de femme, qui a une voix très sensuelle, très reconnaissable. Et donc, du coup, c'est super intéressant, ce rapport-là entre les deux acteurs, et je trouve qu'il méritait vraiment une nomination à l'Oscar.
Mais au-delà de ça, c'est un très bon film de science-fiction, car comme tu l'as dit, ça se passe dans un futur proche. Le Los Angeles qui est utilisé pour ce film, là où se déroule l'histoire, n'est pas le Los Angeles de maintenant. Hein. Je pense que pour ceux qui n'auraient lu aucun papier autour du film et qui découvrent l'œuvre telle qu'elle sur grand écran, va sûrement reconnaître très rapidement le Shanghai de Chine et quelques vues de Los Angeles. On n'a pas un Los Angeles futuriste comme Ridley Scott a pu nous l'offrir avec Blade Runner de 1980. Donc c'est un univers très high-tech. Et puis tout l'univers électronique, réseaux sociaux est omniprésent et nous prouve que voilà, on est dans très proche, on est dans, c'est un futur proche, mais on est à deux doigts de tomber dans cet univers virtuel où finalement les relations n'existent plus, elles sont virtuelles, elles peuvent être intenses, elles peuvent être intéressantes, mais elles restent vaines. Et la fin, qui est quand même assez tragique, est tout à fait logique.
Au niveau, si tu parles de l'ambiance science-fiction, il y a un soin apporté au costume. Ou décor, enfin les costumes très, très vintage, très années 50.
Oui, voilà, paradoxalement, ils ont un look très 50.
Voilà, très coloré aussi.
Et ça rappelle Tati, hein. Tati qui est déjà
par exemple.
Avait anticipé cet univers futuriste avec des cages d'escalier transparents.
Ça marche très, très bien. Mm. Et du coup, il y a un côté intemporel, et c'est un côté aussi très pictural. On est dans des vieilles photos, des vieilles peintures des années 50, je trouve, quand ils vont à la plage, etc. Mm. C'est très coloré, hein. Mm. Et ça marche vraiment très bien, en tout cas. Ça.
Et puis, comme tu l'as dit, le choix de Scarlett Johansson est très judicieux parce que. On ne la voit jamais. On n'entend que sa voix, qui est reconnaissable. Joaquin Phoenix ne la voit jamais, sauf une séquence où on ne la voit pas. Mais grosso modo, pour que Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson puissent avoir une vraie relation... Elle contacte une prostituée qui reprend les traits, enfin avec un système un peu électroniquement compliqué. On vous laissera découvrir la scène. Mais nous, en tant que spectateurs, on sait qui est Scarlett Johansson, on sait à quoi elle ressemble. Et donc, du coup, pour nous, spectateurs, on a une longueur d'avance sur Joaquin, dans le sens où on peut fantasmer nous-mêmes notre propre image de Scarlett Johansson, alors que lui, non.
Et alors ça, c'est une très belle aussi interrogation sur le cinéma même, puisque le cinéma, généralement, est basé de champ contre champ, et là, on n'aura jamais le contre champ.
Oui, c'est
une belle réflexion.
C'est dans Positif que j'ai dit ça, l'auteur qui a fait la critique, il a dit, ouais, c'est un film où deux personnes dialoguent, mais où il n'y a pas de contre champ.
Et oui, là. Et donc ça, c'est sur le point de vue théorique, c'est un film qu'il faudra analyser aussi. Et je pense que c'est un futur classique, entre guillemets, puisque le film est universel. C'est un film qui te donne envie de tomber amoureux, de vivre une histoire d'amour, t'as envie de manger.
C'est un beau film.
Ah oui.
C'est pas le film que t'as envie de tomber amoureux.
Les relations amoureuses sont belles. Il y a des belles femmes. Il est entouré, il faut le dire, des plus belles femmes au monde.
Ça
quand
te donne peut-être envie d'aller habiter à Shanghai, d'avoir un bel appartement avec une belle vue. Et voilà. Non, c'est un.
T'es déjà amoureux, toi, c'est pour ça, mais pas moi.
Non, oui, peut-être.
J'ai envie d'avoir une copine après avoir ce film.
Mais c'est un film de notre temps. C'est vraiment le film du 21e siècle.
Oui, c'est ça, surtout. Comment aujourd'hui aimer à l'ère de Facebook, de Skype, etc. Et le film te dit au final que même si les moyens de communication ont changé, les sentiments humains, eux, ne changeront jamais, de toute façon.
Oui, mais ils sont moins tangibles.
Oui, mais la fin du film nous ouvre des perspectives quand même. Et je pense que c'est plus une bouée de sauvetage pour Joaquin Phoenix qui est vraiment ancré dans l'amour précédent avec sa femme, en fait. C'est ça l'histoire du film. C'est un homme qui doit faire le deuil de sa précédente union. Et ça, je trouve que c'est universel. On a tous vécu des moments d'amour, je pense. Et c'est un film qui est très beau, tout simplement, et qui est très juste. Et la femme fait penser à du Chaplin, moi. Je te l'ai évoqué un peu.
Oui. Et mais ça reste quand même pessimiste, parce que quoi qu'il arrive.
C'est entre les deux, c'est comme la vie, quoi.
Si tu prends un peu de recul, tu analyses le film, le pauvre Joaquin. Qu'il ait pu avoir une relation physiquement non virtuelle et une relation virtuelle, au final, ça se passe mal. Donc, au final, il y a une capacité d'aimer, de mener une relation.
Oui, mais en même temps, le film est montré comme un équilibre. La vie, c'est un équilibre, un éternel recommencement, il le dit, une éternelle évolution. On n'arrête pas de changer, de bouger. Hein. Et ce qui est très beau dans ce film, c'est qu'il te dit. Finalement, le bonheur, peu importe comment on le trouve, du moment qu'on peut le trouver. Quoi. Faites comme vous voulez. Si tu peux aimer une femme qui n'existe pas, bah, c'est pas grave si t'es heureux au final. Il n'y a pas de jugement. Ça, c'est très beau.
Alors, on va se quitter sur... en tout cas, pour cette partie, sur ces jolis mots de Raphaël. On écoute un passage de musique et on se retrouve ensuite pour justement évoquer un petit peu la carrière de Joaquin Phoenix et ses grands films. You asked me to make me a loving you. Every night you pictures crooks and fools. Well, you take it way too far.
to the pistol in a bar. Stop to fuck this up, I'm begging you. Got mud all over my chest, but it was me that got you the best. Well, I guess I'm your bow, I guess I'm your chain, though you might be the one that should be blamed.
L'entretien.
Nous approchons de 19h et c'est donc la dernière partie de ce Confluence Cinéma. On va donc revenir un petit peu sur les grands moments de la carrière de Joaquin Phoenix, qui est donc notamment l'acteur principal de Her qu'on a chroniqué précédemment.
Pour moi, je ne sais pas pour vous les amis, mais moi je pense que c'est l'un des meilleurs acteurs de sa génération, si ce n'est le meilleur.
Moi je suis totalement d'accord avec toi.
Ce serait un mélange comme ça entre, je pense, la sauvagerie, le bouillonnement d'Al Pacino et la fragilité de Montgomery Clift. Et c'est un sacré compliment dans ma bouche quand je dis ça.
Issu d'une famille un peu à l'instar de la famille Arquette, la famille Baldwin, d'une famille d'acteurs.
Alors oui, justement, je vais revenir un peu sur sa famille. Il est issu donc effectivement d'une famille d'acteurs, d'artistes. Il a trois sœurs, donc il y a Liberty, Ren et Summer, dont des noms liés à la nature, et un frère qui est très connu évidemment, c'est River Phoenix.
Et les actrices, elles font quoi? Les sœurs, elles font quoi? Elles ont fait dans le cinéma?
Je sais pas exactement, mais elles travaillent plus ou moins, je crois, dans l'art en général, dans la peinture, etc. Et donc c'est une famille très écolo, hein. Et d'ailleurs, Joaquin Phoenix a souvent souffert en fait de s'appeler Joaquin et pas d'avoir un prénom comme ses frères et sœurs basé sur la nature. Donc il s'est fait appeler pendant très longtemps en fait Leaf, donc feuille, par rapport à ça. Et c'est une famille qui était dans une secte qui s'appelait les Enfants de Dieu, qui était une sorte de mission évangéliste qui prenait la parole du bon Dieu auprès des hippies dans les années 60. Et la famille, ça explique beaucoup de choses sur Joaquin Phoenix après, c'est pour ça que j'en parle un peu, hein. La famille a très vite immigré en Amérique latine, en Argentine, etc., pour continuer à prêcher. Et là, ils ont découvert que c'était une secte et qu'il y avait de la prostitution de mineurs dans cette secte-là. Donc, ils se sont très vite séparés de ce mouvement et ils sont rentrés à Los Angeles, ils sont rentrés aux États-Unis en changeant de nom. Parce que ce n'est pas le vrai nom, en fait. Phoenix, leur vrai nom, c'est Bottom. Donc, Bottom, c'est derrière, le cul en anglais. Hein. Et donc, Phoenix, je crois que ça veut tout dire. Hein. C'est renaître de ses cendres. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui a vraiment influencé Joaquin Phoenix après, dans sa fragilité, je pourrais dire. Vraiment, la base, par rapport à sa famille, c'est vraiment un élément clé. Et c'est un acteur né. Il a fait très, très tôt des publicités. a tourné beaucoup pour la télévision. Il a tourné, par exemple, pour Arabesque à l'époque. Et il a vraiment auditionné, vraiment, dans toute son enfance, avec son frère, hein, River Phoenix, qui est mort malheureusement très très tôt. Hein. Il est mort d'une overdose à l'âge de 23 ans.
Et alors River Phoenix, qui aurait pu être un des plus grands musiciens peut-être de la fin du XXe siècle, qui était vraiment un compositeur, un auteur de chansons de grand talent, notamment avec son groupe Alec Asatic. Et voilà, c'était un des meilleurs amis de Johnny Depp, de Keanu Reeves. Ouais. Et il est mort d'ailleurs d'une overdose d'héroïne, je crois, dans la boîte qui appartenait à Johnny Depp. Mmh. C'est aussi un acteur émérite. Quoi,
parce qu'il avait tourné avec les plus grands déjà à l'époque.
Voilà, alors qu'il avait 23 ans quoi, ouais. Quand il est mort.
Stand By Me de Rob Reiner.
Ouais, My Private Odao. Voilà.
Et Indiana Jones. Pour moi, ça resterait Indiana Jones jeune. Hein.
Et justement, tu parles de My Private Ohio de Gus Van Sant. Mmh. Joaquin Phoenix se fait vraiment remarquer avec le film de Gus Van Sant qui était Prêt à tout. Avec Nicole Kidman. Et là, il montre vraiment un côté aussi encore fragile, hein, puisqu'il est face à la plantureuse Nicole Kidman. Et il avait beaucoup de mal avec son visage. Il a une cicatrice, on ne sait pas exactement la vérité là-dessus. Ce n'est pas un bec de lièvre, apparemment, mais ce serait bien une cicatrice entre la lèvre et le nez. Et là-dessus, il était beaucoup complexé, là-dessus, justement, par rapport à ses premiers films.
En plus, c'est vrai que son frère avait pour le coup un visage complètement angélique. Et d'ailleurs, pour beaucoup, dans les magazines de l'époque, il était considéré comme le jeune homme le plus sexy, etc. Et du coup, Joaquin Phoenix, je pense qu'il y avait aussi un rapport particulier avec ça, de son frère qui l'idolâtrait d'autant plus une fois qu'il a trouvé la mort. Mais il y avait aussi une sorte de mal-être comme ça, d'être un peu le vilain canard. Quoi.
Exactement, par rapport aussi à l'alcool juste qu'on dit tout à l'heure, par rapport à son frère, et il avait une admiration. Et beaucoup, il parlait beaucoup entre eux de leur carrière future. Il disait, on verra quand on aura 50 ans, on fera des grands films ensemble. Et malheureusement, ça n'est jamais arrivé. Mmh. Et donc après, Joaquin Phoenix va un peu traîner sa bosse dans quelques grosses productions. Il y a 8 mm, par exemple, avec Nicolas Cage, ou c'est le Million Dollar Grand.
Après... Ah, mais il joue le d'un gay. Hein.
Ouais, c'est ça, ouais. Après, évidemment, Gladiator, qui fait vraiment. C'est là où je l'ai explosé.
C'est là où je l'ai connu.
Et c'est un acteur qui va évidemment.
Signe.
Ouais, Signe aussi de M. Shyamalan, tous ces films-là. Et c'est un acteur évidemment culte de James Gray. Hein. Il a tourné 4 films avec lui, The Yards, La Nuit nous appartient, To Lovers, c'est dernièrement The Immigrant. Hein.
C'est son acteur fétiche. C'est un couteau suisse, quoi. C'est quand même. Moi, tu parlais tout à l'heure de ses filiations un petit peu. Moi, c'est marrant, il m'a toujours fait penser aussi à Daniel Day-Lewis. Il y avait quelque chose comme ça où tu sens que c'est un mec qui, pendant des mois, il se met dans la peau de son personnage et il est presque à moitié fou. Quoi.
C'est un peu moins cérébral que Daniel Day-Lewis.
Non, il a entièrement raison. J'ai vu des interviews.
Physiquement, il y a quelque chose, quoi.
Mais même mentalement, il souhaite sur tous les tournages qu'on l'appelle du nom de son caractère. Par exemple, il se faisait appeler Théodore Baumley là, dans Heure actuellement, tout le temps comme ça, tout le temps dans la peau du personnage 24 heures sur 24. Et sur The Master donc, de Paul Thomas Anderson qui est sorti il y a un an et demi, il avait la même relation entre guillemets de maître à esclave avec Philip Seymour Hoffman, voilà, qu'il avait dans le film. Donc il se faisait vraiment laminer, il paraît, il traitait comme une merde, il ne mangeait quasiment pas, il a beaucoup maigri pour le rôle, et il est vraiment, vraiment... il se déteste. Il faut savoir que Joaquin Phoenix se déteste, il se trouve vraiment très mauvais acteur, il ne regarde jamais ses films, il ne peut pas, c'est viscéral. Le seul film qu'il a vu, c'est Air, parce que Spike Jonze l'a forcé à regarder le film, et c'est à peu près la seule fois où il s'est trouvé bon à l'écran. Donc vous imaginez un peu, c'est un homme qui est constamment dans le doute, dans la fragilité, et dans le travail, constamment, constamment, constamment.
Ouais, puis il est capable de jouer vraiment des hommes comme ça, dominés, un petit peu laminés ou complètement à moitié schizophrénique. Et en même temps, il est capable aussi de jouer des personnages
des
hyper forts, dominateurs, etc. Quoi. Il a quand même vraiment cette capacité.
Walk the Line était un peu entre les deux, Walk the Line, que Johnny
Cash,
avec l'addiction effectivement à l'héroïne, cocaïne, etc. Et il avait pris à l'époque justement des cours de chant, c'est vraiment lui qui chante dans le film.
Qui chante, ouais. Et d'ailleurs, moi qui aime vraiment beaucoup Johnny Cash, c'est vraiment pas mal ce qu'il a pu faire. Et surtout, il n'est pas tombé dans le piège du mimétisme, quoi, dans le biopic. C'est-à-dire qu'il a fait aussi son propre Johnny Cash à lui, quoi.
Hakim, peut-être
Non, je n'ai pas grand-chose à dire sur Joaquin Phoenix, c'est un acteur que j'aime bien, hein, mais je pense que vous avez tout dit. Moi, je l'ai dit, je l'ai découvert avec Gladiator, hein, où finalement...
Mais le méchant.
D'ailleurs, on en discutait, je ne sais pas s'il a reçu un Oscar pour justement Gladiator.
Non, c'est Russell Crowe qui a eu l'Oscar.
Mais il faisait pas partie de la...
Oui, il était nominé, mais comme d'accord. Pour Walk the Line, il était nominé meilleur acteur.
Voilà, et après, il a fait partie un peu de la petite aventure Shyamalan avec Signe. Et ensuite, le village, hein, où il jouait le rôle d'un demeuré, je crois.
Oui, c'est ça.
Non, c'est... Attends, non, c'est...
Oui, c'est ça.
Non,
oui,
c'est Adrien Brody. Oui, hein. Mais il jouait dedans, dans The Village. Puis voilà. Et puis bon, voilà, il a eu sa période que vous n'avez pas évoquée, hein, où pendant un certain temps, il supposait... Enfin, il avait émis l'hypothèse qu'il arrêterait le cinéma.
Ah oui, ça oui, effectivement.
Donc effectivement, pendant un certain temps, on ne l'a pas vu. On l'a vu par des photos people, un peu gros, barbu, des grosses lunettes, dans un style très Sébastien Tellier.
Il voulait arrêter le cinéma et se lancer dans une carrière de rappeur.
Et en fait,
produit par P. Didi.
Et en fait, ça a donné naissance à un documentaire plutôt, que je n'ai pas vu, que tu as vu.
Qui est un très grand film, effectivement, j'ai oublié de l'évoquer, merci. C'est I'm Still Here. Et c'est un film où, moi, dès le début, j'ai compris que c'était un canular. Hein. Et il a été filmé pendant 3 ans non-stop dans la peau de Joaquin Phoenix, jouant Joaquin Phoenix, mais différent de Joaquin Phoenix. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'il
n'arrête jamais. C'est Casey Affleck, non, qu'il avait réalisé ce film.
Le frère de Ben Affleck. Et c'est hallucinant, puisque même si tu sais que c'est un canular, au fur et à mesure du film, tu te dis c'est vrai. C'est là le talent de persuasion de Joaquin Phoenix. Tu crois qu'il a vraiment pété un câble. Et qu'il y a un moment où il y a une séquence où il dort et il y a l'un de ses potes qui vient lui déféquer sur la tête. Non, mais vraiment, quoi. Tu te dis, le gars, il a vraiment une estime de lui-même assez médiocre, quand même. Et c'est une performance d'acteur, pour moi, un style R, l'une des plus belles des 10 dernières années, franchement.
Non, puis vraiment, moi, ce que je retiens de cet acteur, c'est qu'il, à la fois, il est représentatif des films de sa génération, mais en même temps, je le trouve beaucoup plus profond que beaucoup d'acteurs de sa génération. Il a quand même quelque chose, ce type-là, il a une gueule, il a un jeu, il a un truc où tu sens qu'il n'est pas formaté dans une époque. Et en même temps, il travaille avec les plus grands réalisateurs aussi. Oui. Du moment, donc c'est vrai qu'il y a ça. Et moi, ce que je trouve intéressant aussi, on en a parlé avec River Phoenix, avec Casey Affleck et tout ça, c'est qu'il s'entoure aussi de gens qui sont importants aussi dans le cinéma actuel. Il a eu les bandes de son frère, il a eu aussi créé après un lien avec James Gray, avec des réalisateurs comme ça.
Anderson maintenant, qui retourne avec lui actuellement là.
Et voilà, et c'est vrai que je pense que c'est un acteur qui compte et j'espère qu'il va continuer à compter et à faire comme ça beaucoup de films assez différents les uns des autres et assez intéressants.
Et c'est un homme aussi, moi je l'espère comme toi, mais en tout cas il parle beaucoup de la fin de sa carrière, comme disait Hakim. I'm Still Here, c'était une blague, mais il dit I'm Still Here, j'ai vraiment pensé à arrêter. Il dit pourquoi un sportif a le droit de s'arrêter au sommet de sa carrière et pourquoi pas un acteur.
Mais pourquoi, il faudrait creuser un peu la question, pourquoi a-t-il envie d'arrêter? C'est un peu comme quand Tarantino dit, bon, lui, dit, en tant que réalisateur, il ne veut pas terminer sur une fausse note. Hein, il est toujours sur l'emprise du mauvais exemple de John Huston qui a finalement fini sa carrière en dents de scie. Et lui, en tant que réalisateur, il veut terminer sur une bonne note.
Le film de trop.
Mais voilà, il ne va pas faire le film de trop. Mais un canadien acteur, ce n'est pas pareil. Je veux dire, bon, il a encore plein de choses à prouver.
Il se trouve vraiment très mauvais.
Oui, mais c'est un complexe qu'il a à titre personnel. Mais t'inquiète que si ses films continuent à marcher, qu'il a des propositions, que les meilleurs acteurs le proposent des projets... Bon, il refusera pas. Il fera pas une pause de 5 ans comme a pu faire Daniel Day-Lewis, auquel vous le comparez. Moi, j'y crois pas trop à
ça. Moi, je pense que c'est possible. Moi, je pense que c'est typiquement le genre de mec qui, à mon avis, s'en carre un peu du pognon et qui est tout à fait capable de dire à un moment donné stop. Mais je pense que c'est ça aussi qui le rend si bon et qui fait qu'il dénote quand même par rapport à pas mal d'acteurs, encore une fois. C'est que tu sens que c'est pas un mec non plus qui vit que pour le cinéma. Tu sens qu'en fait, quand il est sur l'écran, lui, il donne de la vie, en fait. C'est une image de la vie avec ses mauvais, ses bons côtés, quoi. Il est pas là à prendre un rôle, en fait, quoi. Et donc, moi,
Il faut que tu ailles voir Her. Ouais, ça va te plaire.
Mais je pense que c'est totalement quelqu'un qui est capable d'arrêter du jour au lendemain. Mais en même temps, comme tu dis, après, si ça se trouve,
il va revenir
ou il va continuer jusqu'à 90
en tout cas,
ans. Quoi.
En tout cas, après M. Still Here, il a une petite traversée du désert puisqu'il s'est quand même mis pas mal de monde à dos Hollywood à travers le... Puisqu'il n'a pas expliqué que c'était un canular. Donc, quand on voit le film, on voit les réactions des gens et il s'est mis pas mal de monde à dos, des producteurs, etc. Il a fallu pas mal de temps avant qu'il revienne. C'était The Master qui a quand même marqué son grand retour. Puis après, The Immigrant et maintenant dans Her. Et ce qui est génial dans Her, c'est que, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a de la légèreté pour une fois. Il y a un peu plus d'humour. Un peu plus de simplicité peut-être aussi. C'est ça qui est beau. Il est capable vraiment d'aller dans tous les registres. Il est capable d'être inquiétant comme dans Gladiator. Il est capable d'avoir le côté respectueux, entre guillemets, de la tradition du genre avec les James Gray. Et maintenant, un peu dans l'humour. C'est un acteur protéiforme, quoi.
OK, messieurs. Eh ben, écoutez, ça va être la fin de cette émission Confluence Cinéma, riche en rebondissements et en informations. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a de beau au programme? Les sorties un petit peu croustillantes.
J'évoquerai un film que j'ai vu aujourd'hui et que je n'ai pas évoqué faute de temps, Wrong Cop, donc le dernier film de Julien Dupieux.
Oui, qui a l'air assez étrange aussi.
Qui est dans la veine de tout ce qu'il a fait auparavant. Un peu plus accessible, hein, mais toujours aussi drôle et tordu. Et je crois qu'il y a Captain America qui...
Ah, ce sera sans moi, les Marvel,
c'est la semaine prochaine.
J'en peux plus, moi. Donc,
c'est la semaine prochaine
là, ouais, c'est vrai. Bon. Non, moi, je ferai plus le film que je vis tout à l'heure. Situation amoureuse, c'est compliqué. Je continue sur l'amour, moi. Mm-hmm. C'est ma grande période de printemps, là. Mm-hmm. Et le Rennais. Le nouveau Rennais, qui est important à chroniquer, je pense.
Et peut-être Monument Man, on verra si...
Ben
si,
oui, je l'ai si pas... En dit un ben, mot, ben je pense que j'en dirai un mot, j'irai le voir cette semaine.
Oui,
tu l'as déjà vu, Raphaël ?
Je l'ai vu, oui.
C'est vrai que c'est mitigé.
Oui, oui.
Bon, on verra.
Ok, ça marche. Eh ben, on se retrouve très bientôt sur Brume 90.7.
Bonne soirée.